Vous écoutez RCF Nice-Côte d'Azur. Dans le cadre de son émission bimensuelle Culture et Spiritualité, Vincent Paul Toccoli nous propose quelques méditations tirées de son ouvrage Petit traité de la compassion.
Les messages. Les éléments de cette perception amputée de toutes parts se présentent comme un puzzle dont la moitié des pièces auraient été égarées au cours de tous les rangements successifs. De grands trous criblent l'image à reconstituer et l'on se trouve réduit à devoir deviner, inventer, imaginer et pallier par la défiguration l'absence totale de figure. Message indéchiffrable et de toute manière incomplet qui nous laisse dans le désarroi des interprétations. C'est pourquoi la structure du rêve est pragmatique pour décrypter ces appels de l'ombre où glisse une conscience de moins en moins nourrie d'informations extérieures. Si le rêve représente l'opportunité offerte chaque nuit de transformer significativement l'existence éveillée par le travail de régénération, de récréation, de défoulement, de désenclavement qu'il assure pendant le sommeil, pourquoi hésiter à en utiliser le fonctionnement pour traiter le discours de la nuit en mêlant aux tablettes endommagées de la communication ordinaire les alphabets embrouillés de langues ignorées qu'il découvre lui-même? Nous ne pourrons peut-être que répéter ce qu'il nous dit, non pas mécaniquement, mais avec toute l'empathie, la sympathie et la congruence dont nous sommes dotés, lui renvoyant les réponses reflets de ses propres paroles avec l'intensité et la tonalité avec lesquelles il nous les confie. Bouteille à la mer du naufrage qu'il entame sous nos yeux et à nos oreilles, au bout de notre nez, pendu à nos lèvres et s'agrippant à notre main, dernière bouée avant de sombrer dans l'eau noire de tous les comas. Accepter de ne pas posséder cette langue étrangère, la langue d'un pays où l'on ne peut aller mieux? Au cours de ces confidences, comme dans le rêve, les inhibitions tombent, que le surmoi, la société, les interdits et les tabous font peser habituellement sur nos discours. L'imaginaire, tout abîmé qu'il soit, ignore une censure bien intégrée en temps de veille et fournit alors aux puissances créatrices restantes un ensemble de combinaisons indéfinies qui, dans le rêve, n'arrêtent leur jeu que parce qu'on se réveille. L'étonnant, c'est que règnent ici d'autres règles, séquences, rencontres, séparations, début, milieu, final, haut, bas, lointain et rapproché, intérieur et extérieur. Voilà que, magiquement, toute cette construction du réel éveillé se distribue autrement, libérant le rêveur de la pesanteur, de l'obstacle, du détour, de la chronologie et de la distance. En se réveillant, le rêveur oublie tout, dit-il. Il n'oublie rien. Mais la censure éveillée redéploie sa chape opaque sur sa conscience et son imaginaire. Tout ce qui s'est passé pendant le sommeil n'est pas perdu, seulement enregistré dans les circuits les plus reculés de nos dépôts mnésiques. À l'occasion, ils ressurgiront. C'est peut-être en ce moment singulier où le temps et l'espace empiètent déjà ailleurs, où les perceptions éclatées inventent des messages inouïs. Qui sait si en ce moment singulier, les rêves enfouis en grand pèlerinage ne remontent pas à la rescousse. Force d'appoint quand la bataille fait rage et que l'on jette au feu tous les enfants perdus. Ne pas troubler celui qui dort. Il va récupérer, régénérer les énergies vitalisantes dans les hautes et profondes centrales de l'inconscience et du rêve. Se faire le compagnon de route vers les grands réservoirs primordiaux où puiser, comme à des sources intarissables, les images nutritives stockées aux quatre coins de nos humanités. Dormir, rêver peut-être, respecter le silence habité de la vie qui va et de la vie qui vient, proposer sa présence comme un verre d'eau pour la soif. Et si, ouvrant les yeux, l'autre reprend sa croix et voit que vous êtes là, si vous l'avez veillé quand il se reposait de la dernière station et que son regard comme premier spectacle croise votre regard qui montait la garde, quelle grâce de lui à vous, de vous à lui, dans la reconnaissance. Les éclaireurs sont des soldats qui ont pour mission de découvrir et de signaler la nuit. Les pulsions de la vie et de la mort. Un homme, une femme, l'accompagner elle, l'accompagner lui. Dans l'être global, cette appartenance et cette différenciation sexuée impriment à ce qui est vécu tout au long de la vie une qualité spécifique intrinsèque. Dire cela, c'est impliquer que les vicissitudes de l'existence, même si elles en tempèrent l'intensité et les manifestations, n'éteignent jamais le dynamisme sexuel de la personne humaine. L'instinct, la pulsion, la force que le sexe développe donnent nécessairement aux activités les plus ordinaires leur coloration plus ou moins soutenue. La sexualité, c'est-à-dire la manière dont chacun vit les déterminations de son sexe, est un lieu de différenciation et d'incomplétude, élan vital en quête de complémentarité, épreuve irréfutable de contingence. Diffuse et omniprésente par définition, la sexualité ne peut être réduite à chacune de ses manifestations d'ordre physique ou psychique. Et si la génitalité en paraît la plus importante, c'est qu'un malaise dans la civilisation a atrophié à cette seule dimension, pour mieux l'exploiter idéologiquement et économiquement, le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme. Il y a, entre la sexualité et la pornographie, au moins autant de distance qu'entre la religion et les sacrifices humains. Si l'homme est pervers polymorphe, il ne s'y réduit pas. Et s'il est capable de ça, c'est qu'il est aussi capable du reste et d'autres choses encore. Nos manières de dire et de désigner la réalité ont si bien tout compartimenté que nous ne pouvons nommer que de façon atomisée ce que nous percevons. Et si certains mots se voient, malgré eux, grevés d'obscénité culturelle, cette dernière ne souille d'aucune manière les réalités évoquées, mais démasque bien plutôt l'œil qui les épie. Quand les notions sont confuses, c'est qu'on ne les connaît pas encore assez, ou que leur confusion est utile à certains groupes. En matière de sexe, on peut dire que les deux causes se soutiennent. Et dire que Rabelais, de Pozzo et de Vivaldi, dire des trois Thérèse, la grande d'Avila, la petite de Lisieux et la missionnaire de Calcutta, que leur écriture, leur architecture et leur musique, que leur transe mystique, leur désir du martyre et leur extrême charité sont aussi des manifestations propres à eux, propres à elles, du flux impétueux de leur ingénieuse et plénifiante sexualité, ne les surprendrait ni les uns ni les autres. Ces gens-là sentent, savent qu'ils ont reçu la grâce de vivre leur être homme, leur être femme, de façon subliminée, c'est-à-dire jusqu'à la limite, seuil, passage, frontière, ils ont subliminé la composante corporelle, physique, génitale de leur sexualité en lui faisant opérer une mutation somatique, psychique, spirituelle. La sexualité s'exerce et par le corps et par l'esprit. Les fils et filles spirituelles ne sont pas moins fils et filles des autres. Si les deux vocations destinées ne s'excluent pas nécessairement, il en arrive en revanche qu'elles conditionnent suffisamment pour que certains estiment par eux-mêmes devoir choisir. Le sexe ne s'ignore pas, il s'assume. Eh bien, la souffrance, comme toute sensation, est sexuée. L'agonie est sexuée. Partant, la mort aussi. Vivre jusqu'au bout, c'est aussi vivre sa sexualité jusqu'au bout. Et si l'aspect de mon corps et si l'état de mon esprit ne sont plus ce qu'ils étaient, ma sexualité non plus n'est plus ce qu'elle était. Peut-être fonctionne-t-elle mal, mais elle fonctionne. Désir, besoin, attente de tendresse, de toucher, d'être touché, imagination, rêve, fantasme, les mêmes exigences s'imposent. Regard, odeur, voix, satisfactions apaisantes pour combler le vide qui augmente, réserve, pudeur, honte, mortification de n'offrir qu'un corps qui se laisse aller. La voracité des ross est implacable, rien ne peut l'assouvir définitivement. Feinte, bluff et martingale font qu'il l'emporte toujours jusqu'au fond de la couche de toutes les affres. Et même quand la vue s'obscurcit, quand la bouche et le nez s'encombrent, il restera toujours, et l'oreille et la peau, sensibles encore aux stimulations et aux excitations extérieures, sonores et tactiles. L'éros, alors, retourne aux origines, à la voix et à la peau des berceuses. Il se fait abandon de confiance et de bien-être dans les mains mélodieuses qui savent prendre soin en satisfaisant d'abord. Savoir jouer des ondes essentielles en longs tracés immobiles, ponctués par les soupirs d'aise qui précèdent le dernier. L'érotisme minimal de la présence qui, dans le secret, perdu des échanges élémentaires, communique à la manière du sonar des liquides primordiaux. Il semble qu'on puisse renoncer au plaisir, tellement il est subtil et investi de façon insoupçonnée l'épaule de toutes nos décisions, depuis l'avidité jusqu'au renoncement. Quand nous choisissons, même pour écarter, c'est pour nous satisfaire à un niveau que nous ignorons nous-mêmes la plupart du temps. Quand j'ai donné quelques inti, la monnaie péruvienne, aux miséreux en guenilles de la Plaza Bolognese à Lima, au Pérou, je n'ai d'abord pas admis qu'il s'offrit un gobelet de chicha, une espèce infâme d'aguardiente. Et puis dans le second mouvement, je dus reconnaître qu'au cœur de cette profonde et durable misère, le plaisir d'une seconde était plus désirable que l'apaisement momentané et dérisoire que pouvait offrir une empanada rance, une sorte de beignet à n'importe quoi. De même, la sexualité a ses raisons. La femme délabrée qui se farde et se parfume dans des coussins qu'elle aura demandé de bien vouloir rafraîchir n'oublie pas qu'elle est femme. L'homme qui se rase ou se fait la barbe, quel que soit l'inconfort de l'opération, l'homme s'asperge encore de quelques gouttes d'aftershave en demandant qu'on veuille bien lui changer sa veste de pyjama, n'oublie pas qu'il est homme. Stratégie d'une séduction degré zéro, peut-être, mais pour repartir de zéro précisément, il faut le vouloir. Dans ces circonstances, le paraître se révèle l'adjuvant de l'être, et le ravalement aide à tenir mieux.
C'était quelques méditations tirées de l'ouvrage Petit traité de la compassion, signé Vincent Paul Toccoli. C'était Culture et spiritualité sur RCF Nice Côte d'Azur. À bientôt.